بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ سير, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, c'est la nuit du destin. Notre thème aujourd'hui, c'est la nuit du destin. La nuit du destin contient des hasanats que les autres nuits n'ont pas. Elle est considérée comme étant la meilleure nuit de l'année. Cette nuit-là, qui est la nuit du destin, c'est la meilleure nuit de l'année. Mais la question, c'est comment gagner la récompense de la nuit du destin? Ça, c'est le concret. On sait tous, la nuit du destin, ça a de la valeur. Pour certains, ils ont beaucoup d'informations dessus. Si tu dois avoir un souci en tant que musulman, c'est comment faire pour gagner la récompense de cette nuit. An Aisha radiallahu anha, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. Selon Aisha رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم, quand entrait les 10 dernières nuits de Ramadan, les veillait en prière, réveillait sa famille et redoublait de ferveur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup plus d'efforts, il doublait ses efforts dans ces 10 derniers jours. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Tayyib. Le prophète sallam, dans les 10 derniers jours du Ramadan, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait toute la nuit, il réveillait sa famille et il doublait ses adorations. Il réveillait sa famille car le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la famille était un dépôt, une amène. Et oui, mes chers frères et sœurs, mes frères qui m'entendent, comprenez bien ce qui va être dit là maintenant. Nos épouses, nos femmes sont des amanettes, des dépôts qu'Allah nous a confiés. Et Allah nous questionnera à leur sujet, nous récompensera si on a fait notre devoir envers elles, et dans le cas contraire, nous serons punis. Dans Sourate At-Tahrim, Sourate 66, verset 6, Allah dit Ya ayyuha alladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. C'est un ordre d'Allah. C'est un ordre, c'est pas facultatif, c'est un ordre. Allah dit Ô vous qui avez cru. On a tous cru. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui vient après? Préservez vos personnes et vos familles du feu. Protège-toi de l'enfer. Comment se protéger de l'enfer? En apprenant la religion, en apprenant qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, en faisant ce qu'Allah et le prophète sallam nous ont imposé. Et ça, c'est pas un ordre qui s'adresse qu'à toi. Non, c'est toi et ta famille. Préserve ta personne et ta famille du feu. Ta famille, c'est-à-dire ton épouse, tes frères et sœurs, tes enfants, ta famille dans le sens large. C'est une obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que vous connaissez tous, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Chacun d'entre vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Chaque berger est responsable de son troupeau. Ton troupeau c'est qui? C'est ta famille, ta femme, tes enfants et autres. Dans un hadith, an Abi Huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla wa ayqadha imra'atahu fa in abat نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء رواه أبو داود بإسناد صحيح. Selon Abu Huraira, le prophète sallam a dit que Dieu donne sa miséricorde à quiconque a veillé une partie de la nuit à prier et a réveillé sa femme pour qu'elle en fasse autant. Le prophète sallam il fait une invocation qu'Allah fasse miséricorde. C'est qui fait le dua? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son dua, il est mustajab ou pas? Il est exaucé, oui ou non? Oui, d'office. Il dit qu'Allah fasse miséricorde à qui? Écoutez bien. À quiconque a veillé une partie de la nuit. D'accord? Il a passé une partie de sa nuit à prier et à réveiller sa femme pour qu'elle en fasse autant. C'est-à-dire, il ne pense pas qu'à lui. Ça confirme le verset de tout à l'heure. Hein? C'est que c'est toi et ta famille. On doit sauver tous de l'enfer. C'est un effort à faire. Et après, si elle a refusé de se réveiller, il lui a jeté de l'eau au visage. Si elle refuse ta femme de se réveiller pour prier la nuit, on n'est pas en train de prier Fajr, Aïcha, tout ce qui est obligatoire, ça n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion pour la prière obligatoire. On parle du supplément, si tu veux, de l'option, du bonus. Si elle ne s'est pas réveillée pour prier des prières yani, qui sont sunnah facultatives, pas obligatoires, il lui a jeté de l'eau. Et tout ça, le prophète me dit, cette personne-là, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il lui a jeté de l'eau, c'est pas, il a pris 2 litres, il lui a versé dans le visage. Comment il réveille sa femme? Un petit peu, quelques gouttes, il lui met sur les yeux, histoire de, voilà, que l'eau touche ses yeux. Et que Dieu donne sa miséricorde à toute femme qui a veillé une partie de la nuit à prier et à réveiller son mari. T'as vu comment c'est important qu'on s'entraide dans le bien? Le prophète s'il fait cette dua, c'est pour montrer que c'est important de s'aider, d'aller vers le bien, la concurrence vers le bien, tout le temps, l'entraide. Si il a refusé de se réveiller, elle lui a jeté de l'eau au visage, rapporté par Abu Daoud. C'est comme ça que doivent être les maisons des musulmans, prière de nuit, Coran, concurrence dans le bien. Ça, c'est les maisons des musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait qiyam al-layl. Qiyam al-layl, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il priait la nuit. Tu vois? Il se levait la nuit pour prier. Il priait jusqu'à ce que ses pieds enflaient. Et dans ces moments-là, Allah lui avait pardonné tous ses péchés. Subhanallah. Et il continue à prier. Et Aïcha, dans sa haine, Bukhari lui dit, oh prophète, Allah, il t'a pardonné tes péchés passés et futurs, et tu continues à faire la prière. Pourquoi? Il lui a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? S'il m'a pardonné, faut que je sois reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est en faisant la prière. Parce qu'en faisant la prière, tu dialogues avec Dieu, tu parles avec Dieu. Celui qui prie pas, il a pas de contact avec Dieu. Il s'est privé de parler avec Allah. Il s'est privé de tout. Si seulement il savait de quoi il s'était privé. Donc le prophète, il avait l'habitude toute l'année de prier la nuit 11 rak'at. Toute la nuit. C'est pas que pendant Tarawih comme nous. Nous, Tarawih, 11 rak'at, après c'est terminé. Si on se réveille la nuit, c'est pour boire ou pour aller aux toilettes. Illa man rahima rabbi. Sauf pour ce qu'Allah a fait miséricorde. Donc non seulement il se levait, tu vois, toutes ces nuits, mais en plus de ça, il allait réveiller Fatima radiallahu anha. C'est qui Fatima? La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il ne se contente pas de se réveiller lui pour prier la nuit seulement, et ce n'est pas une obligation. Il allait réveiller Fatima. Ali, qui est qui? Le fils? Le fils à qui? Non? C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époux de Fatima radiallahu anha. Quatrième calife de l'islam. Il a une histoire, subhanallah. Si les jeunes ils connaissaient l'histoire d'Ali ibn Abi Talib, ils arrêteraient de dire que nos modèles c'est tel chanteur, tel footballeur, tel rappeur et tel je sais pas quoi là. Pour qu'eux aussi, c'est-à-dire il est réveillé, Fatima et Ali, radiallahu anhuma, pour qu'eux aussi prient et profitent de la nuit. Il réveille Ali, radiallahu anhu, Fatima, radiallahu anhu, Aisha, radiallahu anhu, en leur disant, écoutez bien, hein, par Dieu, je ne vous serai d'aucun secours. Croyez pas parce que je suis le père de Fatima, je suis ton père, que je suis ton mari, Aisha, que je pourrais te sauver. Réveillez-vous et œuvrez, travaillez. Chacun portera ses bonnes et mauvaises actions à lui. Il portera pas le fardeau de quelqu'un d'autre. Dans Mouta, l'imam Malik, il est rapporté que Omar radiallahu anhu priait beaucoup la nuit. Et à une heure précise, il réveillait sa famille entière en disant, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alayha. Subhanallah. Il priait toute la nuit et à une heure précise, il allait réveiller sa famille en disant « Et commande à ta famille la salat. » Ça c'est dans un verset, dans Surat Taha, Surat 20, verset 132. « Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. » Il réveille toute sa famille, il ne se contente pas de lui. Et il met en pratique ce verset qui dit « Et commande à ta famille la salat. » Voilà, il commande à sa famille la salat. On réveille donc nos familles pour la salat. Le prophète Hassan le faisait, mais concrètement, que faire à part la prière dans ces 10 derniers jours? Qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Ben on a dit la prière, lecture de Coran, demande de pardon, c'est-à-dire istighfar, dua, invocation, dhikr, évocation. Hélas, on a des gens qui font tout le contraire dans le ramadan. Le ramadan, il entre, il achète une nouvelle télé pour garder les feuilletons. Et tu lui dis, viens, on fait tarawih. Ah non, 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 aujourd'hui, les méchants, ils vont attraper le gentil, ils vont l'emprisonner. Oh, c'est un épisode, si je le rate, comment, si je meurs, je vais rencontrer comment Dieu? Presque, il a envie de te dire ça, tu vois. Subhanallah. Pendant le mois du ramadan, la télé, si tu veux l'ouvrir, c'est pour écouter du Coran ou des durus, des rappels. Et ça, c'est, ça doit être toute l'année. Pas pour perdre le temps. La perte de temps, comme le disaient nos ancêtres, est pire que la mort. Vous savez qui disait ça? C'était Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il disait, la perte de temps est pire que la mort. Car la mort te coupe juste des habitants de ce bas monde. Or, la perte de temps te coupe d'Allah. C'est une catastrophe. Le temps est comme un sabre tranchant. Si tu le découpes pas, c'est lui qui va te découper. Et tu vas voir ton temps, il part 3 heures chat, 2 heures sur le net, téléphone 4 heures, 5 heures télé, après tu manges en 8 heures, après tu vas voir tes amis, je sais pas combien de temps. Et tout ça, il n'y a pas de baraka parce qu'il n'y a pas d'ikrillah. n'y a pas de rappel d'Allah, il n'y a pas d'évocation, il n'y a rien pour le cœur. Il n'y a rien. Hein? Donc, pendant le ramadan, on a des gens qui sont au télé, d'accord? Parce qu'il y a des moussalsalats, des feuilletons qui passent que pendant le ramadan. Les fawazir, les clips, les chansons du ramadan, les caméras cachées. Tu veux que j'aille faire un tarawih et je laisse les caméras cachées? Allez, sois crédible, non? S'il te plaît, réfléchis un peu. La caméra cachée, elle vient que dans les 30 jours du ramadan. Si je les regarde pas, c'est chaud, je vais pas rigoler. Wallah, tu t'entends, Al-Ajaib, t'entends des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Hein? Et t'en as d'autres, films, clips, musique, radio, Skyrock, ado, tout ça, tu fais la grève. Tu freines tout ça, tu tiens le frein à main, tu dis stop. Stop. Ce mois-là, je fais des efforts. Pas parce que c'est le mois du ramadan, non. C'est parce qu'il faut que je m'entraîne après le ramadan à être un mec solide. Quelqu'un, je suis un lion. Après le ramadan, tu me lâches, c'est bon, alhamdoulilah, je me fais plus dévorer par n'importe qui. Tu vois, ma foi, elle est assez forte. Pas, subhanallah, on voit des gens après le ramadan, c'est un petit chat, un petit chaton. Hein, un petit chat, il lui fait, cette fitna, elle vient, il court, il fuit. Non, on veut des gens solides. Les compagnons du prophète Sam, ils étaient jeunes, ils avaient notre âge. Ils avaient notre âge, c'est ça qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens pensent que compagnon, c'est-à-dire 40, 50 ans. Il y avait 12, 13, 17, 18, 16. Et ils ont fait des choses, subhanallah, à leur âge. C'est eux qu'on fait en sorte que nous, aujourd'hui, on entend qu'Allah, 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 Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire la da'wah. Ils l'ont aidé et c'était un message très très lourd. Et dur à enseigner, à propager, sachant qu'il n'y avait que du shirk autour d'eux. جاريت الحسن بن صالح لما باعها لقوم أخذوها عندهم فكانت إذا صلت العشاء افتتحت الصلاة تصلي ربما إلى الفجر وتقول لأهل الدار يا أهل الدار قوموا فصلوا فيقولون لها نحن لا نقوم إلا الفجر فجاءت إلى الحسن بن صالح تشتكي وقالت له بعتني إلى قوم سوء ينامون الليل كله أخاف أن أكسد ردني ردني فرأف بها وردها. Al-Hassan ibn Salih, un parmi nos ancêtres, parmi les pieux prédécesseurs, avait une esclave. D'accord ? Cet homme, il avait une esclave. Il décida de la vendre. De la vendre. D'accord ? Cette esclave, une fois arrivée chez ces nouveaux gens, se mit à prier Salat al-Isha, la prière de l'Isha. Elle avait l'habitude de prier toute la nuit jusqu'à l'aube. Ça, c'est son habitude. Elle prie l'Isha et elle prie jusqu'à l'aube, jusqu'à l'Fajr. Sa nuit entière, c'est quoi ? De la prière et de l'adoration. Puis, au milieu de la nuit, elle réveilla les gens de la maison, les nouveaux propriétaires là. Réveillez-vous, on va prier la nuit. Réveillez-vous, parce que pour elle, c'est normal. En disant, levez-vous pour prier. Ils dirent, nous ne prions que le Fajr. Ne nous réveille pas, nous on se réveille que pour le Fajr. Elle alla se plaindre à son ancien maître. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu m'as vendu à des mauvaises personnes. Car il ne prie pas la nuit, il prie que le Fajr et j'ai peur de faiblir, perdre ma foi et ma motivation. Rachète-moi et c'est ce qu'il fit. Allahu Akbar. Tu m'as vendu à des mauvaises personnes, pourquoi? Parce qu'il ne prie pas des prières surrogatoires la nuit. Subhanallah, cette femme, si elle entrait dans nos maisons aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? C'est pas des mauvaises personnes, c'est des voleurs, c'est des criminels. Hein? C'est que cette génération-là. C'est pas les prières de nuit, ils se réveillent pas. Eux, ils mangent le haram, ils désobéissent à leurs parents, ils font pas les prières à l'heure, ils sortent avec des filles, l'homme il porte de l'or, il met des... Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Nasallah subhanahu wa ta'ala an yaruddana ila dinihi raddan jamila. Aujourd'hui, le fajr, c'est un obstacle pour les gens. Alors imagine-toi, eux, pour eux, c'était normal de prier la nuit. Une question. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup plus d'efforts dans les 10 derniers jours du ramadan que dans d'autres? Celui qui sait, il dit. Pourquoi? La réponse, c'est qu'il voulait gagner la récompense de la nuit du destin, qui est une nuit bénie. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, quand le mois du ramadan est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, à l'entrée du mois du ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, ce mois vous est venu. Il leur annonce que le mois il est venu. Ce mois vous est venu dans lequel se trouve une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. C'est quelle nuit? La nuit du destin. Celui qui en est privé de cette nuit-là, celui qui en est privé de tous les biens et n'est privé de bienfaits qu'un déserté, c'est-à-dire un dépouillé, un privé, un mesquin, un mahroum. Tu vois? Et le hadith, il est rapporté par Ibn Majah et il est jugé valide par Sheikh l'Albani. La nuit du destin a des mérites que seul Allah connaît. Elle a énormément de mérites. Savez-vous quels sont les mérites de la nuit du destin? Un premier mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah a descendu une sourate en sa faveur. Vous connaissez sourate Al-Qadr? Une sourate où il a parlé que de la nuit du destin. Allah a révélé une sourate en sa faveur. Allah dit dans sourate Al-Qadr, sourate 97, versets 1 à 5, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi laylati al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatu al-Qadr, laylatu al-Qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La traduction de ces versets: nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Le Coran, il est descendu pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Ça, c'est le Coran, hein? Quatrième verset: durant celle-ci, durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'esprit. C'est-à-dire quoi l'esprit? Patiente un petit peu. Tu poses tout le temps des questions qui n'ont pas lieu d'être. Attends un peu, sois patient. Par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, premier mérite de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une sourate en sa faveur. Deuxième mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah le Tout-Puissant l'a honoré en disant: et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Wa ma adraka ma laylatul qadr. Si seulement vous savez ce que c'était la nuit du destin. Il l'honore en la mettant en valeur par ce verset. Troisième mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah a fait descendre le Coran de Lawh al-Mahfouz. C'est quoi le Lawh al-Mahfouz? C'est la table gardée. C'est là où Allah a écrit tout ce qui allait se passer sur terre jusqu'au jour dernier. Hein? Même on entend tout le temps, c'est le Maktoub. C'est le Maktoub, ça veut dire c'est ce qui est écrit. C'est écrit où? Dans la table gardée qui se trouve au-dessus des sept cieux. C'est bien compris? C'est ça la table gardée. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran de la table gardée, parce que vous savez que Allah il a tout écrit dans la table gardée 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre. Ça, c'est hadith Ibn Umar dans Musnad Ahmad. Donc 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre, il avait déjà écrit le Coran en entier. Où ça? Dans la table gardée. D'accord? La nuit du destin, Allah a fait descendre le Coran de la table gardée à la maison de la gloire. C'est où? C'est en fait la Kaaba des anges qui se trouve au premier ciel, juste en haut de la Kaaba, tu vois, qui se trouve au ciel inférieur. Pendant cette nuit, on entend par la descente du Coran, pas que le Coran est venu entièrement, il a été révélé entièrement dans le ciel inférieur, mais le début de la révélation a commencé la nuit du destin. Et après, le Coran a continué à être révélé de manière fragmentaire selon les événements et les circonstances. Et ça, c'est l'avis de Sha'bi. C'est bien compris? Le Coran, vous savez très bien que le premier verset, c'était la nuit du destin, et après ça s'est enchaîné jusqu'à la fin de la vie du prophète selon les événements. Quatrième mérite de la nuit du destin, c'est qu'Allah a dit qu'elle vaut mieux que mille mois. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Attention, la nuit du destin ne vaut pas mille mois d'adoration, mais elle vaut plus. Faut pas dire que la nuit du destin, elle vaut mille mois. Elle vaut plus, khayr. Elle est meilleure que mille mois. Meilleure, c'est-à-dire plus que mille mois. Mille mois, vous savez, ça fait environ combien? Pour sortir de la polémique, parce que tout le temps, j'ai quelqu'un qui me dit 83 ans, 3 mois, 3, 3, 3, 3. 83 ans et 4 mois à peu près. D'accord? Cette nuit-là, tu l'as fait vivre dans une adoration correcte. T'assures, tu cartonnes dans cette nuit. 83 ans d'adoration et sont dans ton compte de Hassanat. 83 ans d'adoration. Tu comprends pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait les 10 derniers jours dans la mosquée? Pour être sûr de gagner cette récompense. 83 ans. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les membres de ma communauté vivront entre 60 et 70 ans et peu de gens dépasseront ces âges. Rapporté par Tirmidhi. C'est une réalité. C'est une réalité. Dans notre communauté, allez, dis-moi dans ta famille, ceux que tu connais, combien sont ceux qui sont morts à 90 ans, à 100 ans? Pas beaucoup. Donc le prophète, il dit que ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Et peu de gens dépasseront ces âges. Peu de gens. Donc toi, on suppose que tu vas vivre 70 ans. Cette nuit, qui est la nuit du destin, elle vaut mieux que 83 ans d'adoration. Elle vaut mieux que toute ta vie entière. Ça mérite ou pas que tu fasses des efforts de malade pendant cette nuit ou pas? Ça mérite. Ça mérite que pendant cette nuit, t'oublies le sommeil, t'essayes de te priver, ta école ou autre, t'essayes de te priver de sommeil. Je te dis pas de te priver d'école, hein. Comme ça tu dis pas, regarde, il appelle les gens à sécher. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, vas-y, même avec les yeux en compote. Tu vois, vas-y, même avec des bâillements, vas-y, va dormir en cours. Non, faut pas aller dans ce truc-là. Non, c'est vrai. Fais des efforts. Prive-toi. Dans les nuits impaires surtout. Regardez dans vos familles, combien sont ceux qui ont vécu jusqu'à 80 ans. Alors ne ratez pas cette nuit qui vaut mieux, j'ai bien dit mieux, pas 83 ans, mieux que 83 ans. Cette nuit est un trésor, éloignez-vous au maximum pendant les 10 derniers jours, et si vous pouvez, durant toute votre vie, de la télé, surtout quand c'est pour des choses qui sont inutiles, qui ne profitent pas. Le foot, pas le sport à en jouer, la télé, on a des malades du foot. Il regarde le match, il ne s'est pas contenté du match, après il veut chercher les chaînes où il y a les commentaires. Après, il va rentrer sur Internet pour voir s'il n'y a pas des commentaires qui sont descendus. Après, c'est le téléphone. Mais franchement, ce penalty, il n'était pas royal. Hein? Et ça ne se termine pas. Il peut parler pour un match, il peut perdre 6-7 heures. Un match, il lui fait perdre 6 heures de sa journée. Un match, il te fait perdre 6 heures de ta journée, c'est grave. C'est super grave. Ton temps, c'est ce que tu as de plus cher. Cinquième mérite de la nuit du destin, c'est que les anges descendent sur terre et deviennent, pendant cette nuit-là, plus nombreux que les grains de sable qui existent sur terre. Subhanallah. Durant cette nuit, Allah dit quoi ? Durant cette nuit, durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. On reprend le verset ? Écoutez bien. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit. Les anges descendent par milliards. Et comme vous le savez, les anges ne descendent qu'avec le bien et la lumière. Ils viennent accompagnés de l'esprit. C'est qui l'esprit ? C'est l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. L'ange Gabriel, il descend cette nuit. Il y a des milliards d'anges. L'ange Gabriel en personne. Vous savez, ça veut dire quoi l'ange Gabriel ? Hein ? Le chef des anges. Hein ? Tu vois ? Le chef des anges. Il est là. En ce qui concerne Gabriel, à titre d'info, Jibril alayhi salam, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, rapporte que le prophète a vu Gabriel dans sa forme. Il l'a vu deux fois dans sa vraie forme. Deux fois dans sa vraie forme. La première fois, c'est lors de la révélation de Ya'ir al-Muddathir. La deuxième fois, c'est fil Isra al-Ma'raj. Et dans la grotte de Hira, il ne l'a pas vu quand il a dit Iqra. Il ne l'a pas vu sous sa forme angélique. Parce qu'il venait beaucoup sur la forme d'un être humain qui s'appelait Dahi al-Kalbi, en règle générale, qui était un compagnon très très beau. Donc, il l'a vu sous sa forme angélique disposant de 600 ailes. Voilà la description de l'ange Gabriel. 600 ailes, chacune d'elles a obstrué l'horizon. Une de ces ailes, elle couvre toute la terre. Une seule. 600. Tombant de son aile, des choses multicolores, des perles et des perles précieuses. Sous chaque aile, il y a des couleurs de perles et de diamants et d'émeraudes que seul Allah connaît ces couleurs-là. Et le hadith, il est rapporté par Ahmad dans le Musnad. Imagine un peu, Gabriel et son immensité et son statut, avec plein d'anges, ils descendent la nuit du destin. Est-ce que vous pensez qu'ils descendent pour rien ? Sûrement pas. Sûrement pas. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Vous savez pourquoi ils sont là ? Ils sont là pour nous faire des doigts. En disant Allahumma ighfir lahum. Allah pardonne-leur. Et ça toute la nuit. Allahumma arhamhum. Fais leur miséricorde. Ils te font des doigts, subhanallah. Et tu vois que tu profites d'eux. Parce qu'ils te font des doigts et ils témoigneront en ta faveur le jour du jugement. C'est une nuit où certains seront honorés, d'autres humiliés et rabaissés. Ceux qui sont humiliés et rabaissés, c'est ceux qui ont été privés de la récompense de cette nuit. Ils n'ont pas cherché à l'avoir. Et ils resteront comme ça jusqu'à l'fajr et après l'fajr, ils s'en vont. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Jusqu'à salat al-fajr. Et ce nombre important d'anges prouve que cette nuit est très importante. Très importante. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. رواه أحمد في المسند. Selon أبو هريرة رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la nuit du destin était celle du 27 ou 29. Ça c'est une version. D'accord ? Parce qu'il y a d'autres versions de hadith qui disent d'autres nombres impairs. Là, dans ce hadith-là, le prophète s'est dit que la nuit du destin était celle du 27 ou 29. Que les anges, écoutez bien, que les anges descendent sur terre pendant cette nuit et sont plus nombreux que les cailloux. Rapporté par Ahmed dans le Musnad. Ce nombre d'anges important, il n'est pas venu pour rien. Comprenez-le bien. Ces 10 derniers jours, les nombres impairs, la nuit du destin, ça doit être ton objectif. Sixième mérite de la nuit du destin, c'est que cette nuit est une nuit de paix. C'est une nuit de paix. Allah dit à son sujet, elle est paix, salamun hiya, hatta matla al-fajr, salamun. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On sent la quiétude, la sérénité, le repos dans cette nuit-là. Septième mérite de la nuit du destin, c'est que celui qui veille a prié la nuit du destin par foi et par unique désir de la récompense de Dieu, Allah lui pardonne tous ses péchés. Subhanallah, 83 ans d'adoration, elle a énormément de valeur, les doigts des anges, Allah il pardonne tous ses péchés. Dans le hadith, Abu Hurayra radiyallahu anhu dit an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Selon Abu Hurayra, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a veillé a prié la nuit de la valeur, ça c'est une des définitions, parce qu'elle a appelé chez certains la nuit de la valeur, d'autres la nuit du destin. Ces définitions, elles sont toutes bonnes, inshallah. La nuit de la valeur, parfois il a veillé à prier la nuit de la valeur, parfois et par unique désir de la récompense de Dieu, c'est ça que tu cherches, c'est la récompense de Dieu, Dieu lui pardonne tous ses péchés passés, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une question que peuvent se poser certaines musulmanes. Est-ce que les autres communautés, auparavant, ils ont connu la nuit du destin, oui ou non? Bani Israël, par exemple, ils ont connu la nuit du destin? La réponse, c'est non. C'est une faveur qu'Allah a fait à notre communauté. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est pas injuste pour les autres communautés? Ils n'ont pas eu quelque chose qui pèse lourd comme ça? Déjà, sachez qu'Allah fait tout avec une sagesse. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, Allah, s'il a fait ça, il les a privés, c'est qu'Allah a permis aux communautés d'avant nous de vivre longtemps. 100 ans, 150 ans, même 200 ans. Les communautés d'avant, ils vivaient très longtemps. Donc imagine-toi celui qui vit 200 ans. Il a l'occasion de faire beaucoup de bonnes actions. Nous, pour nous compenser, sachant que nous, on vit que entre 60 et 70, en règle générale, eh bien, il nous a été donné, voilà, cette grande faveur qui permet de compenser ces années qu'on n'a pas pu vivre. Tu vois? C'est mieux que 83 ans. Et ça, c'est une rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est donc une faveur qu'Allah nous a accordée. Regarde avec moi un petit peu tous les biens qu'on a dans notre religion. Avec la bonne action, t'as dit hasanat. L'aumône, elle peut être multipliée jusqu'à 700, même plus. En plus de ça, Allah il nous donne une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Savez-vous pourquoi cette nuit a été appelée Laylatul Qadr? Pourquoi? La réponse, c'est que Al-Qadr veut dire l'honneur. Et cette nuit-là, Allah nous a honorés, car dans ce mois, Allah a descendu le meilleur livre, par l'intermédiaire du meilleur ange, au meilleur prophète et à la meilleure communauté. Cette nuit a regroupé tous les honneurs. Tous les honneurs. Vous devez être fier juste de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on ait des musulmans. Si tu veux te faire de quelque chose, c'est ça. Stop. Ni ton compte bancaire, ta voiture, tes baskets, ton MP3, ton portable, tout ça, jette-le-moi à la poubelle, s'il te plaît. Ou sort de ton esprit que ça, ça a de la valeur. T'as de la valeur par l'iman, par ta foi, par ton degré d'adoration, de foi, d'attachement à Dieu, par tes œuvres. Tout ce qui est éphémère là, du bas monde, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur et Allah, il va pas te demander t'avais quelle marque d'MP3, mais plutôt qu'est-ce que t'as écouté dans l'MP3. Maintenant, on veut savoir comment gagner la récompense de la nuit du destin. Comment la gagner réellement? La réponse est premièrement d'être très actif dans les 10 derniers jours du Ramadan. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète a dit « Attendez la nuit de la valeur dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan » rapporté par le Bukhari. La nuit du destin, elle se trouve dans les 10 derniers jours du Ramadan et le prophète a dit ici « Dans les nuits impaires ». Ça veut dire quoi les nuits impaires? Le prochain hadith, je vais expliquer ça après. Le prophète a dit « Cherchez la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan » c'est-à-dire la nuit dont le lendemain correspond au 21, 23, 25, 27, 29. 5 nuits impaires. Ces 5-là, essaye d'être à la mosquée. Fais tout. Ouais, mais je suis fatigué le travail. Mon frère, t'es tout le temps fatigué de travail. Tout le temps fatigué de travail. T'as tout le temps des devoirs. T'as jamais de temps libre, t'as jamais de repos. Sacrifie de ton temps et de ta santé. Je veux que dans cette nuit-là, tu sois avec nous, Inch'Allah. Et tu fais, yani, ce que tu peux. Ce que tu peux. Essaye de faire le maximum que tu peux. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit, la vie le plus fort est que la nuit du destin change de jour chaque année. Ah bon? C'est le 27? La nuit du destin, c'est le 27 que tu racontes. Écoute, mon frère, ceux qui ont commenté les hadiths, Ibn Hajar, il a commenté Sahih al-Bukhari. Il dit, la vie le plus fort est que la nuit du destin change de jour chaque année, mais reste dans les nuits impaires des 10 derniers jours. C'est-à-dire qu'elle peut être le 27 cette année, l'année prochaine le 23, l'année d'après encore le 27 ou le 25 ou le 21 ou le 29. Donc c'est pas seulement le 27. Donc il est possible que cette année, dès le 27, le 25, le 23. Et Ibn Hajar dit que la vie d'un grand nombre de savants, c'est qu'elle vient le 27 du mois du Ramadan. Ces savants-là qui ont dit que la vie qui pèserait pour eux lourd, qui est le 27, s'appuie sur ce qu'a dit Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, qui était un compagnon. Muslim, l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud ont rapporté un hadith authentique, et Tirmidhi aussi, d'après Ubay ibn Ka'b, qui a dit, écoutez bien, par Dieu, un compagnon qui jure par Allah, par Dieu, c'est une nuit de Ramadan, par Dieu, il parle de la nuit du destin qui se trouve dans la nuit du Ramadan, par Dieu, je sais de quelle nuit il s'agit. C'est la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé de veiller en prière et en adoration, à savoir la nuit du 27 de Ramadan. On la reconnaît, et là Ubay dit comment on reconnaît les signes de la nuit du destin. On la reconnaît à son lever de soleil, blanchâtre et sans rayon. Le soleil il se lève, il est blanc et sans rayon. Ça c'est les signes qui prouvent que voilà, on a passé la nuit du destin, c'était celle-là. Donc là, il dit par Dieu, un compagnon qui jure par Allah que c'est le 27. Ça pèse lourd ou ça pèse pas lourd? Ça donne du poids quand même à l'argument. C'est pas n'importe quoi, c'est un compagnon. Les compagnons, c'est tous qu'il n'y en a aucun d'eux qui mentait. C'était les meilleurs les êtres humains qui ont vécu sur terre, après le prophète sallam et les prophètes. Donc, c'est pour ça que certains ont dit que c'est le 27. On va donc qu'Obey, radiallahu anhu, Ibn Ka'b, est de l'avis que c'est le 27. Mais ce n'est pas son opinion à lui seul. C'est aussi l'opinion de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. De Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. C'est aussi l'avis de Hafsa, radiallahu anhu. C'est l'avis aussi de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. C'est l'avis de Ibn Abbas, radiallahu anhu. C'est l'avis aussi de l'imam Ahmad, rahimahullah. Mais si c'est vraiment le 27, si c'est vraiment le 27, yani sûr, à 1000%, comme le pensent yani la majorité des musulmans, pourquoi Allah ne nous l'a pas appris par l'intermédiaire de notre prophète sallam? Si c'est vraiment le 27 chaque année, pourquoi? Vous savez très bien que la religion elle est claire, tout a été éclairci pour la communauté. Allah il n'a pas dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, elle est complète. Donc si vraiment ça aurait été le 27 chaque année, il y aurait eu un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un verset qui dit la nuit du 27 c'est ça. Là on a un compagnon qui jure. Et on va voir après le hadith du compagnon comment on doit le comprendre. La réponse, pourquoi Allah il nous a caché cette nuit, c'est que si Allah nous avait donné la date de la nuit du destin, les gens feraient n'importe quoi pendant le Ramadan, voire même le matin du Ramadan, et viendraient tous la nuit du 27, comme le font la majorité des musulmans d'ailleurs, à la mosquée, en prière, Coran, etc. Si elle a été cachée cette nuit, c'est pour que tu fasses des efforts dans les 10 derniers jours et que tu la recherches dans ces 10 derniers jours et que tu gagnes le maximum de hasanat pendant ces 10 derniers jours. C'est donc une sagesse de la part d'Allah de l'avoir cachée, afin que l'on fasse des efforts pendant tout le mois du Ramadan, surtout les 10 derniers jours. En plus de ça, une fois le prophète sallam a vu la nuit du destin le 21, selon Abu Sa'id al-Khudri. Dans Sahih Muslim, le prophète il a vu une fois la nuit du destin le 21. Dans un autre hadith, dans Riwayat Abdullah ibn Unais, il l'a vu le 23. Dans Riwayat Wa'athila radiallahu anhu, il l'a vu le 25. Donc on a des hadiths qui montrent que la nuit du destin elle était le 21, une fois c'était le 23, une fois c'était le 25, une fois c'était le 27. Bon, explique-moi pourquoi le compagnon il a juré. Il a juré parce que le prophète l'a informé que cette année-là c'était le 27. Mais ça ne voulait pas dire que toutes les années c'était valable. Il y en a que c'était le 27 chaque année. Tu vois? Donc là, tu as bien compris que les nuits impaires, il faut que tu les recherches toutes. Pas juste tu viens le 27 et on voit tout le temps de toute façon. Et pour ceux qui sont là à la mosquée, alhamdoulilah, elle est pleine. Le 27, c'est fini. C'est... Plus personne n'arrive à rentrer à la mosquée. Ils viennent tous manger ici à Al-Maghrib pour garantir une place. Toi qui veux avoir la récompense de la nuit du destin, recherche-la donc dans les 10 derniers jours du Ramadan. Avec sincérité, sois véridique avec toi-même. Dans la bataille de Khaybar, un homme est venu voir le prophète. Il a dit, je veux me convertir, je veux me reconvertir à l'islam. il s'est converti. Et après, il y a eu une bataille, il est rentré dans la bataille, ils ont gagné la guerre et ils ont ramené une part de butin, tu vois, le butin de guerre, il est distribué après, il y a une part qui est distribuée aux compagnons. Une part du butin de guerre, de ce qu'ils ont gagné dans la guerre, elle a été distribuée aux compagnons, et ce compagnon-là qui venait de se soumettre et d'embrasser l'islam, il lui a été donné une part. Il est parti voir le prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, mahal, ô messager d'Allah, c'est quoi cet argent? Il lui a dit, c'est ta part du butin de guerre. Il lui a dit, ma ala hadha taba'atuk, je t'ai pas suivi pour avoir ça. Après le prophète, il est étonné, il lui a dit, walakinni taba'atuka li urmaha huna wa ashara ila halqih. Il lui a dit, si je t'ai suivi, c'est pour une seule raison. C'est pour que je sois touché d'une flèche à la gorge, que je meure dans le sentier d'Allah, que je meure shahid, et pas pour de l'argent. Je veux pas ça, moi je veux le jannah. C'est pas mon souci, ça l'argent, je vais faire quoi avec? Le prophète lui a dit, in tasduqillah yasduq. Si tu es véridique envers Allah, Allah le sera envers toi. Une autre bataille est venue, et la bataille elle a pris rage, et cet homme-là il rentre dans le combat. Et après, la fin de la bataille, les compagnons viennent dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un tel homme, il est mort. Il dit, ahoua, vous êtes sûr que c'est bien lui? Il est parti, il l'a vu. Et après, il a dit, sadaqallah fa sadaqa. Il a été véridique envers Allah, et Allah l'a été envers lui. Après, il a prié sur lui, il l'a couvert de son manteau, et il a dit, Allahumma inna hadha abduk, qutila shahidan wa ana ala dhalika shahid. Il a dit, Ya Allah, ô Seigneur, voilà ton serviteur qui a combattu et qui est tombé martyr, et j'en suis témoin le jour du jugement. Tu vois, il a été véridique, il a été sincère. Nous, on veut des gens sincères, véridiques, qui cherchent réellement la récompense. Pas du blablabla, 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 et après il vient, il fait 2 rakats. Non, un motivé. Selon Saad ibn Hunayf, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a demandé sincèrement à Dieu de lui accorder le martyr, Dieu lui fait rejoindre les demeures des martyrs même s'il meurt dans son lit. Rapporté par Muslim. Subhanallah. Donc on voit que la sincérité, elle te donne, yani au final, ce que tu veux, si tu l'es vraiment. Si tu veux vraiment la récompense de la nuit du destin, fais beaucoup de dua. Je veux que tu bombardes de dua pendant ces derniers jours-là. Les dua t'en fais à fond la caisse, ou à fond la forme, comme dit Catlon. Et fais surtout des dua dans les moments où on a eu la nouvelle qu'ils seront exaucés. Fais des doigts dans les moments où tu sais qu'ils sont exaucés. Comme quoi, pendant que tu jeûnes, da'wat as-sa'im mustajaba. Quand tu fais le ramadan, et ben, quand tu demandes à Allah, Allah il t'exauce. Quand encore? Pendant le moment de la rupture du jeûne. Pendant le moment, ça veut dire, tu vois, quand tu vas manger, tu dis bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa arzuqna khayran minhu, t'as mis une date dans ta bouche. T'as mis la date, là tu dis Allahumma inni laka sunt wa ala rizqika aftart. Et pas avant d'avoir mis quelque chose dans la bouche, tu fais ce dua, c'est une erreur ça. Après avoir fait ce dua, tu demandes à Dieu. Et dans cette rupture de jeûne, le dua il est mustajab, il est accepté. Demande à Allah, et ne demande-lui que du halal. Hein. Pas qu'est-ce que j'aimerais à Allah que tu me maries avec telle chanteuse dans le clip. Non. Sois intelligent. Hein. Demande le halal, demande pas n'importe quoi, demande pas du haram. Quand encore faire des dua? Pendant le moment de la rupture de jeûne et entre l'adhan et l'iqama, entre les deux appels de prière. Quand il y a l'adhan, après on laisse un certain temps, après il y a le second appel qui est pour se lever, faire la prière. Quand encore le dua est mustajab, celui qui sait, il lève la main. Allez, vous savez quand même, vas-y. Dernier tiers de la nuit, barakallah fait. Quand encore sujoud dans la prosternation, quand encore le jour de Arafa, barakallah fait. Dans le voyage, Allah ybarik fik. Quand encore? L'opprimé, barakallahu fik. Oui, vous êtes présent, vous êtes là, alhamdulillah. Quand encore? Lors de la descente de la pluie. Oui. La da'wa du père envers son enfant. Quand encore? Lorsque tu bois l'eau de Zamzam. Bon, c'est bon, alhamdulillah, vous êtes rodé. Vous connaissez pas mal, mashallah. Bon, si vous connaissez tous ces moments-là, choisissez un moment où le dua est mustajab et faites des dua. Demandez à Allah le pardon de péché, la miséricorde, la guider, qui vous ouvre les portes du bien, qui vous facilite la vie du halal, qui guide vos familles, qui guide vos enfants, etc., etc., etc. Choisis les moments qu'il faut pour les doigts. Et quand tu demandes à Allah, demande-lui beaucoup. Répète ta demande plusieurs fois. Oui? Bien sûr, ceux qui ne peuvent pas, quelqu'un vient de se reconvertir à l'islam, il ne sait pas faire des doigts en arabe, il fait en français, inshallah. Tu vois? Mais le mieux, c'est d'apprendre en arabe et surtout ce que le prophète sallam utilisait comme doigts. Surtout. Donc, tu fais beaucoup de doigts et tu demandes. Et avec Allah, il faut demander plusieurs fois et insister, multiplier les demandes. Ah bon? Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'insistance dans les doigts. Un être humain, tu lui dis par exemple, l'enfant, il dit à son père, papa, achète-moi une sucette. Hein? D'accord. Papa, achète-moi une sucette. D'accord, je te dis, c'est bon. Papa, tu peux m'acheter une sucette? Réponds-lui, s'il te plaît, parce qu'il va finir dans une marmite. Papa, tu m'as acheté une sucette? 5 fois la demande, ça y est, toi, t'as un court-circuit dans le cerveau. C'est vrai? Allah Azza wa Jal aime que tu multiplies les demandes. Dans un hadith, Abu Hurayra radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, من لم يسأل الله يغضب عليه سبحان الله من لم يسأل الله يغضب عليه رواه الترمذي أبو هريرة rapporte que le prophète s'en a dit quiconque ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui, rapporté par Tirmidhi. Allah, il aime que tu lui demandes, il veut que tu lui demandes, il veut que tu insistes dans la demande. Et il faut que tu saches une chose et avec certitude qu'il n'y a qu'Allah qui peut donner. Tout est entre les mains d'Allah. Ça, faut que vous le sachiez. C'est pas entre les mains de ton patron. Non, ton patron, Allah lui a facilité d'avoir la santé, d'avoir un tawfiq dans le travail, etc., etc., pour qu'il te donne le salaire et que la boîte elle tourne, etc., etc. Tout est entre les mains de Dieu. Un parmi les pieux prédécesseurs, une fois il était dans la mosquée, un homme il est rentré, il a dit quoi? Il a dit, imaginez cet homme il rentre et il fait cette demande. Celui qui veut de l'argent, celui qui veut une voiture, celui qui veut de la richesse, qui vienne me voir. Je crois que je vais parler tout seul à la fin. Hein? Je vais parler tout seul, tout le monde sera à la porte de la mosquée. Moi, décapotable, s'il te plaît, un scooter, un jet ski, un quad, s'il te plaît. Hein? Et je vais me retrouver à parler au mur. Ou vous êtes pas comme ça? Non, Inch'Allah, vous êtes pas comme ça. Tu vois, eh ben, cet homme-là, il est venu faire cette demande et il a vu qu'il y en a un seul qui a pas bougé. Ça l'a étonné, il est parti voir, il lui a dit, Yahav, toi, je suis là, demande-moi, tu veux pas te marier, t'as pas de dette? Demande-moi de l'argent. Je suis là, moi, je suis présent, j'ai de l'argent, je suis lourd. Il le dit, Awa akunu fi baytillah wa as'alu ghayrillah. Est-ce que c'est logique que je sois dans la maison d'Allah et que je demande à autre qu'Allah? T'as vu un peu comment ils ont compris les choses? Après, ça l'a gêné. Tu vois, ça l'a mis dans la gêne. Il a dit, bon, celui-là, je l'attends au rond-point, celui-là. Au tournant, il va voir. Il est sorti de la mosquée, il l'a attendu dehors. Il a dit, voilà, maintenant on est dehors. Demande! On n'est plus dans la mosquée. Demande! Il a dit, les choses que tu peux m'avoir, c'est des choses de ce bas monde ou de l'au-delà? Il a dit, c'est des choses de ce bas monde. L'au-delà, c'est Allah qui a toutes les choses de l'au-delà. Il a dit, en ce qui concerne ce bas monde, j'en veux pas, moi je veux que de l'au-delà. Si tu peux pas me servir à quelque chose pour l'au-delà, prends tes choses et pars. Des gens qui sont attachés à l'au-delà. Ils sont branchés en réseau, en Bluetooth si tu veux, hein, fibre optique maintenant, avec l'au-delà. C'est comme ça que tu dois être. Tu demandes qu'à Allah et avec certitude qu'il va t'exaucer. Demandez à Dieu en ayant la certitude qu'il va vous répondre, qu'il va vous exaucer. Pas je teste, j'essaye. Tiens, je demande et je vois. Si ça exauce, alhamdoulilah, c'est que ça marche, je reste avec Dieu. Fais pas ça. T'as tout perdu. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Zéro. T'as rien compris si tu fais ça. À celui qui veut gagner la récompense de la nuit du destin, qu'il apprenne la valeur de cette nuit afin de bien se préparer à l'accueillir. Beaucoup de gens ne savent pas tout ce que l'on vient de dire aujourd'hui. Il y en a plein, tout ce qu'on vient de dire, les mérites, tout ça, les récompenses, ils ne le savent pas. Hein? C'est une nuit comme les autres pour certains. On trouve certaines mamans, pendant la période des 10 derniers jours, au lieu d'être présentes et d'essayer de faire des efforts dans les nuits impaires, vous savez qu'est-ce qu'elles font? Elles préparent du makroud, baklawa, kahk, des gâteaux pour l'Aïd. C'est dans ces jours, il y a Ommi, toi qui m'entends, mes sœurs qui m'entendent, qui sont mariées, faites pas de gâteaux. Faites des efforts. C'est vrai, c'est réel ou c'est pas réel? Les supermarchés pendant les 10 derniers jours, ils sont saturés, blindés. Où il dit qu'est-ce qu'il va mettre comme vêtement? Qu'est-ce que je vais lui acheter comme pull? Est-ce que c'est assorti au pantalon? Les jeunes qui vont sortir et pendant les 10 derniers jours, il est en train d'acheter les vêtements de l'Aïd. Non, mon frère. Mais n'importe quel vêtement ancien, même troué. Mais ne perds pas la récompense des 10 derniers jours. Parce qu'il y a une nuit qui vaut mieux que 83 ans. 83 ans. Mes chers frères et sœurs, réveillez-vous et ne tombez pas dans cela comme beaucoup de musulmans font chaque année. Achetez vos affaires avant le ramadan. Chaque année, programme-toi. Avant le ramadan, achète les vêtements de l'Aïd, va à Carrefour, achète les briques, les machins, le thon. Comme ça, t'es réglé. Tu vois? Dès le début. Et le mois entier, tu le passes en adoration. Et pas à faire des gâteaux et rester dans la cuisine pour les femmes ou dans les centres commerciaux pour les hommes. Organisez-vous. À tous ceux qui veulent gagner la récompense de la nuit du destin, qu'ils ne laissent pas l'occasion de faire une retraite pieuse. Elle est atikef. C'est quoi l'atikef? Pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, on en a parlé. L'atikef, Aïcha radhiyallahu anha a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, faisait une retraite contemplative, atikef, ou une retraite pieuse, dans certaines versions, dans les 10 derniers jours du ramadan. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et on rapporte de Aïcha radhiyallahu anha que le prophète faisait sa retraite pendant les 10 derniers jours du ramadan, et ce jusqu'à sa mort, ses épouses continuèrent à le faire. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans l'année de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une retraite pieuse de 20 jours. Toute sa vie, il faisait que 10 jours à la fin du ramadan, et l'année de sa mort, il est resté 20 jours. Au point de vue de la religion, c'est quoi l'i'tikaf? C'est quoi une retraite pieuse? C'est le fait de résider à la mosquée avec l'intention de se rapprocher de Dieu. C'est que tu restes à la mosquée avec l'intention de te rapprocher de Dieu. Ça, c'est une retraite pieuse. D'accord? Donc la sunna, c'est que tu restes les 10 derniers jours dans la mosquée et tu n'en sors pas. Ça, c'est la sunna. De la nuit du 21 jusqu'à la veille de l'Aïd, tu es à la mosquée. Oui, mais t'as vu, on a des difficultés, il y a le boulot, il y a l'école, donc on ne vient pas du tout? Non. Pour ceux qui vont penser comme ça, on va leur dire, venez au moins une heure. Une heure, c'est vrai? Ça, c'est l'opinion de l'imam Echef et l'imam Abu Hanifa dans un de ses avis. C'est que l'i'tikaf, il est permis wala ou lahza, même s'il reste qu'une seule seconde. Tu vois? Donc rentre avec l'intention de rester une heure, deux, trois, ce que tu peux, la nuit entière. Et l'imam Malik est de l'opinion que c'est un jour et une nuit minimum. Un jour et une nuit minimum. Et cette opinion, c'est normalement la plus juste. Tu vois? La plus juste, c'est celle-là. Mais bon, comme on sait qu'il y a des difficultés, on ne peut pas imposer aux gens de venir dans des moments où ils ne sont pas capables de venir. Yani, faites ce que vous pouvez. Essayez. Comme c'est une sunna, faites des efforts. Une question. La nuit du destin, est-ce qu'il y a un doa en particulier à dire ou pas? Celui qui sait, il dit. La nuit du destin. Tadal. Barakallahu fik. Aïcha radiallahu anha, elle a posé cette question. Et on voit, subhanallah, la religion, elle est complète. Comme Salman al-Farisi radiallahu anhu, un juif, il est venu le voir, il lui a dit, tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a tout enseigné dans la religion? Il a dit, oui, même comment aller au sel, même comment faire nos besoins. Même ça, ça a été enseigné dans la religion. Tout a été enseigné, rien n'a été laissé. Tout, tu parles de n'importe quoi dans ta vie, tu verras que la religion, elle a un mot dessus. Soit une généralité, soit c'est bien détaillé. La réponse c'est oui, il y a un doa. Et notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a dit, قلت يا رسول الله هذا الشهر رمضان فماذا أقول فيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. Ce doa, il est à apprendre par cœur. Par cœur. Là on est dans les 10 derniers jours. Par cœur. C'est quoi ce doa là? اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Vous devez l'écrire. Hein. Ça, celui qui est pas arabophone ou qui n'arrive pas à apprendre rapidement, tu dois l'apprendre par cœur. Aïcha radhiyallahu anha a dit, ô messager de Dieu, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle de la valeur, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui dit, dis, Seigneur Dieu, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi. Rapporté par Tirmidhi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'afu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'afu anni. Les 10 derniers jours du ramadan, je veux que tu bombardes ce doa. Dans ta tête, t'es que ce doa. Tu fais beaucoup d'efforts. Surtout dans les prosternations. Le moment où l'être humain est plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Pour finir, voyons ensemble les erreurs que font pas mal de musulmans pendant la nuit du destin pour les éviter.
Ah, des erreurs. Il y a des gens qui font des erreurs pendant la nuit du destin.
Écoute avec moi. Première erreur, c'est le fait d'être insouciant pendant les nombres impairs des 10 derniers jours du ramadan, que ce soit dans la cuisine pour les femmes, ou le shopping, ou autre pour les hommes. La première erreur que font les gens dans la nuit du destin, c'est qu'ils la négligent. Ils ne viennent pas à la mosquée, ils ne font pas d'efforts. Deuxième erreur, c'est le fait de prier la nuit, de tarawih, ou de faire des prières de nuit. Au début du ramadan, tu as vu le début du ramadan commencer? La mosquée, mashallah, il n'y a pas un mot à dire. Le dit d'après, Les gens ils commencent à être fatigués. L'Eid, d'après, ils sont en train d'acheter les vêtements de l'Aïd. Tu vois? Ce que tu dois faire, toi, mon frère et ma soeur qui m'entendent, c'est l'inverse. C'est les 10 derniers jours, tu es encore plus motivé que les 10 premiers. Pourquoi? Il y a quelque chose en jeu là. C'est pas le millionnaire, c'est 83 ans. C'est du lourd, réveille-toi. 83 ans, faut pas que tu les laisses passer comme ça. Normalement, c'est le contraire. À la fin du ramadan, on est encore plus motivé que motivé. Troisième erreur, c'est le fait de croire que dans cette nuit, il y a des miracles. Et là, wallah, on entend des trucs, mais waouh. Parmi les choses qu'on entend, genre, il y a des lumières de malades dans le ciel. En fait, c'était des avions qui sont passés avec des couleurs. Ils ont repeint le ciel et lui, il dit, c'est la nuit du destin. D'autres disent qu'un ange vient sur un cheval. Écoutez, hein, ça c'est pas des paroles que j'invente. Hein. D'autres disent qu'un ange vient sur un cheval te dire, est-ce que tu veux des bijoux ou pas? Wallah, c'est des trucs de malade. Est-ce que tu veux des bijoux? Petite graine de café, d'esprit, non? D'autres disent que dans le ciel, il y a des chevaux. J'ai vu la nuit du destin. Pourquoi? J'ai vu un cheval dans le ciel. Mon frère, couvre-toi bien avant de dormir parce que tu fais des rêves chelous. D'autres disent, j'ai vu des chiens dans le ciel. Pareil. Hein? D'autres ils disent, les arbres se prosternent. J'ai vu un arbre, il était en prosternation. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis pas en train d'inventer hein, ce que je suis en train de vous dire là. Wallahi, c'est des vérités. Des trucs comme ça. D'autres ils disent qu'on peut entendre la voix des anges et même leur serrer la main. Et pendant que tu peux les checker aussi. Quatrième erreur pendant le ramadan, c'est le fait que les frères cherchent les signes de la nuit du destin. C'est que la nuit entière il est dehors en train de regarder le ciel. Parce que il est de couleur blanchâtre, il n'y a pas de rayon. Passe la nuit à l'intérieur de la mosquée, pas à l'extérieur. Te soucie pas des signes. Reste ici, fais des efforts là. Et pendant les 5 nuits impaires, 21, 23, 25, 27, 29, cartonne. Après, peu importe. C'était laquelle, de toute façon, les 5, tu les as garantis, Inch'Allah. Ça, c'est parmi les erreurs qu'on entend. Cinquième erreur, c'est le fait de prier des prières particulières pendant cette nuit. Il y a plein d'innovations qui sont faites pendant cette nuit. Plein de bid'a. Parmi elles, c'est Salat Hifz al-Qur'an. La prière de l'apprentissage du Coran. Ça existe d'où ça, s'il te plaît? C'est écrit où? T'as ramené ça d'où? Non, mais non, la bonne intention, elle est là. Mais la bonne intention, elle doit être accompagnée de quoi? De la conformité de la religion. Est-ce que c'est conforme? Oui ou non? Le prophète Samuel l'a fait, oui ou non? Non? Khalas, délaisse, comme ça, t'es tranquille. Sixième erreur, parmi les erreurs faites par beaucoup, c'est de venir à la mosquée que la nuit du 27. Et le 28, il n'y a plus personne à la mosquée. Le 29, c'est nuit impaire. Ça peut être le 29. Il n'y a plus personne. La mosquée, elle est déserte. Tu peux même jouer au foot derrière. Tu vois? Non! 21, 23, 25, 27, 29, t'es à la mosquée. T'es à la mosquée. Pas que le 27. Le 27, il s'est terminé? C'est très bien, alhamdoulilah. Peut-être que ça sera le 27. Tu vois? Peut-être que c'était le 27. Toi, tu continues. Et pour terminer, le fait de dire que la nuit du destin n'existe plus. Il y a certaines personnes qui disent la nuit du destin n'existe plus. C'était qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est n'importe quoi. Elle continuera d'exister jusqu'à la fin des temps. Ces signes sont comme dans le hadith de Ubay cité tout à l'heure. Un soleil blanchâtre et sans rayon. Asallah subhanahu wa ta'ala an yuballighana laylat al-qadr. Hada ma a'lamu Allah wa a'lamu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.